Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 82. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Les startups, ça me fait un peu peur. J'ai toujours l'impression que les gens qui sont dans des startups viennent d'une autre planète, une planète où tout va très très vite, où tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, où les gens se passent de main en main les secrets de la croissance. Bref, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un monde à part avec un fonctionnement propre qui n'est pas transposable dans ma réalité de chef d'entreprise et encore moins d'indépendant. C'est là que mon invité du jour a littéralement déconstruit cette idée. Cet invité, c'est Gabriel Gourovitch. Gabriel en connaît un rayon sur les startups. Il travaille avec elles tous les jours et il s'est même fait une spécialité de former sur leurs techniques d'acquisition et de vente. Dans cet épisode, Gabriel nous explique en détail quelle est la stratégie d'acquisition startup, comment elle fonctionne, quel est l'état d'esprit derrière cette stratégie et ce qui fait qu'elles arrivent à atteindre très rapidement une croissance exponentielle. Il n'est ni question de formule magique, ni d'entre-soi, comme on peut souvent le croire, non. Gabriel nous explique comment faire en 5 étapes pour faire exploser la croissance de son entreprise. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Gabriel Gourovitch. Bonjour Gabriel, bienvenue sur le podcast du marketing.
Salut Estelle, merci déjà, je suis très heureux d'être ici, merci de m'avoir invité.
Je suis ravie que tu sois là. Gabriel, tu es l'hôte du podcast Grossmaker. Donc le podcast Grossmaker, c'est un podcast sur lequel tu invites des personnes pour parler des stratégies marketing du top 1% des startups. C'est tout un programme, tu vas nous en parler. Et puis tu as également un organisme de formation avec lequel tu accompagnes des entreprises sur différents domaines que sont l'acquisition client, la prospection et la vente. Gabriel, moi je t'ai proposé de venir aujourd'hui sur le podcast du marketing pour nous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler et qui fait souvent un petit peu peur et que tu maîtrises très très bien, c'est le gross marketing. Et j'aurais voulu que tu nous expliques un petit peu comment font les startups pour croître. Et puis surtout, est-ce que ce modèle-là de croissance des startups, on peut le décliner sur, sur des modèles d'entreprises, je dirais, plus à taille plus humaine, qu'on soit indépendant ou petites et moyennes entreprises. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Gabriel, je vais te demander de passer par l'exercice habituel sur le podcast du marketing. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots qui tu es et ce que tu fais ?
Avec grand plaisir, je m'appelle Gabriel Gourovitch, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je suis le CEO et cofondateur de Growth Makers. Donc, comme tu disais, on fait des podcasts depuis 4 ans maintenant, et je le décrirai un petit peu autrement, je le décrirai plus comme un accélérateur de carrière, parce que d'un côté, on a un média, donc au début un podcast, le podcast d'ailleurs Growth Makers du même nom, puis aujourd'hui on a même 3 émissions sur les nouvelles méthodes marketing, sur les nouvelles méthodes managériales et le troisième sur les méthodes commerciales. On va en avoir de plus en plus. Et de l'autre côté, on vient le coupler avec un modèle plus ce qu'on appellerait d'éducation professionnelle, 100% en ligne. Donc là, c'est des programmes de formation qu'on va aussi aller construire avec les mêmes personnes qu'on a sur le podcast. En fait, on va reprendre les mêmes experts parce qu'on part du principe que c'est les seuls qui vont être légitimes à bien apprendre parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà mis en place dans leur boîte. Donc, logiquement, ils peuvent l'expliquer aux autres, c'est-à-dire à tous les autres, moi, nos participants, comment le faire. T'as dit un truc hyper intéressant aussi sur la question, est-ce qu'on peut l'adapter? Nous, c'est toute la thèse du podcast, du tout début, Growth Makers, et ensuite sur les prochains, c'est de partir du principe que les startups sont ce qu'on va appeler en avance de phase. Donc c'est un petit peu barbare, je sais pas si t'as déjà écouté les termes qu'on va employer, j'espère d'ailleurs, je m'excuse en avance auprès de tes auditeurs et auditrices si j'utilise beaucoup de franglais, je vais essayer de le faire le minimum possible.
Non, on a l'habitude, moi je n'utilise que du franglais tout le temps. Vas-y, n'hésite pas, puis on traduira si besoin. Voilà.
Eh bien, super. Et donc, on part du principe que les startups sont en avance de phase, notamment sur leur état d'esprit, leur culture, leurs outils, leurs process, leurs stratégies. Et donc, on va aller les voir et on va les prendre. Donc, nous, c'est que des experts, que des responsables de pôle, des directeurs, directrices marketing, ce qu'on appelle aussi directeur head of growth, donc directeur de la croissance d'une startup, directeur ou directrice commerciale, etc., etc., pour qu'ils nous expliquent exactement ce qu'ils font tous les jours. Donc, pas de bullshit, que du concret. Et l'idée, c'est que de plus en plus de personnes puissent s'en inspirer pour le mettre en place dans leur job, c'est pour ça qu'on appelle ça un accélérateur de carrière, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit employé ou salarié de start-up.
Génial, super. C'est super intéressant, moi j'aime bien ça parce que, si tu veux, moi je ne suis pas du tout dans le milieu start-up. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, tu vois, que je trouve un peu mystérieux finalement quelque part, mais que je vois d'assez loin et j'ai l'impression que c'est un monde complètement différent. Et là, je commence à entrevoir que c'est peut-être pas un monde si différent que ça et il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir trouver dans les start-up et adapter dans nos entreprises. Donc super intéressant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il n'y a pas de raison d'attendre. Il me semble que toi, au sein de Growthmakers, tu as, au sein de ta propre entreprise, hein, pour la développer, tu as une espèce de modèle qui vient, si j'ai bien compris, hein, tu me dis si je dis des bêtises, mais qui vient de ce modèle startup, de tout ce que tu as pu comprendre des startups à force eh bien, de travailler avec elles, qui vient de ce modèle startup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça va ressembler, puis on va rentrer dans le détail?
Ouais, complètement. Donc la méthode, je pense, à laquelle tu fais référence, c'est la méthode qu'on a développée en interne, c'est-à-dire qu'on a repris tout ce qui nous, j'ai repris tout ce que j'ai pu apprendre à droite à gauche. Moi, ça fait déjà 8 ans que je suis là-dedans, pas dans le podcast, mais dans le milieu des startups, du growth, etc. Et on comprend le modèle que j'ai pu mettre en place, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mapper, c'est-à-dire à poser les bases de la croissance d'une startup. C'est quoi? Comment est-ce qu'on va croître, en fait? Et ensuite, comment est-ce que, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour croître? Pour faire beaucoup, beaucoup plus concret, je ne sais pas si ça c'est assez concret, c'est en 5 étapes, donc on met 5 étapes, ça fait partie de d'une des formations que moi j'anime et que j'ai créée. Et donc dans ces 5 étapes, la première, ça va être de mettre à place ce modèle de croissance. Donc en fait, on part du principe que chaque entreprise a une équation de croissance qui va changer au cours du temps, hein. C'est-à-dire, comment allons-nous grandir? Qui sont nos personas, qui sont nos cibles, quels sont les canaux, les primaires qu'on pourrait aller utiliser, quelles sont nos ressources. Donc vraiment, on va mettre à plat, c'est une espèce d'audit, à plat, où est-ce qu'on en est, qui on est. Et on va essayer de commencer à faire un schéma, tout simplement. Bon, un modèle de croissance, c'est un schéma, c'est une espèce d'équation qui va dire comment est-ce qu'on va acquérir des utilisateurs ou des clients, comment est-ce qu'on va les convertir et comment se convertir en client. Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent là-dessus et comment est-ce qu'on va faire des ambassadeurs pour qui, soit qui réfèrent, qui parrainent d'autres personnes, en parlent autour d'eux pour venir utiliser notre service ou notre produit, soit qu'ils aillent en parler à d'autres personnes, etc., etc.
En fait, c'est ta, que je comprenne bien, c'est ta stratégie de croissance, c'est ta planification. Tu mets sur papier, voilà comment nous, on pense qu'on va aller trouver nos clients, c'est ça?
Et c'est à peu près ça. La stratégie, nous, notre stratégie de croissance, c'est au bout, entre guillemets, des 2-3 premières étapes. Là, c'est vraiment essayer de poser de façon macro qu'est-ce qu'on vend et comment on va le vendre, sans aller dans le moyen pur. C'est-à-dire, on va pas dire directement il faut qu'on aille embaucher des commerciaux, par exemple. C'est vraiment plus... On va faire très concret, je pense que ça va être plus simple. Prenons un exemple. Nous, Growthmakers, c'est un modèle, ça va être, c'est quoi notre contexte? Tout simplement. Qui est notre, au milieu, que j'aime bien mettre au milieu d'un modèle de croissance, le persona? Ouais, et ensuite, de mapper avec un funnel, par exemple, qu'on a souvent en gros hacking, qui s'appelle AARRR, donc ce framework, qui est acronyme, qui veut dire acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Donc, en fait, si on le prend de façon française, c'est juste, tout début du funnel, où est-ce que je vais trouver un funnel? C'est tu me dis si j'ai besoin de tout
détailler. Vas-y. Ouais, parfait.
C'est aujourd'hui, c'est une façon de voir assez start-up à la base, mais qui devient complètement normal pour tout le monde. C'est d'essayer de comprendre en fait qu'on fait des entonnoirs de conversion. Ouais. Donc un funnel, c'est un entonnoir. C'est-à-dire au début d'une entreprise, enfin dans n'importe quel projet, on va mettre de l'eau et en fait peu à peu, à chaque étape de notre entonnoir, donc entre la personne qui arrive sur le site web, celle pour nous par exemple qui va candidater à une formation et celle qui va vraiment participer, va y avoir un taux de conversion. Il y a 100 personnes qui arrivent, il y en a peut-être 20 qui candidatent, il y en a 10 qui sont prises. Donc on appelle ça un entonnoir de conversion et on va essayer de comprendre en fait dès le début, c'est-à-dire que ça peut être fait en amont d'une entreprise, ça peut être fait pendant, enfin, au moment où elle existe déjà, plus tard. Et c'est essayer de tout se comprendre, tout se mettre autour de la table, parce qu'on ne le fait pas tout seul, hein. C'est un sport d'équipe, la croissance. Essayer de comprendre, en fait, c'est quoi notre modèle. Parce qu'on se rend compte très souvent que personne n'est aligné entre les commerciaux, le ou les fondateurs et ceux qui font du produit, donc qui vont créer ce produit, les formations pour nous, par exemple. Personne n'est vraiment aligné sur qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on grossit.
Alors attends, je te coupe une seconde parce que tu as déjà dit plein de trucs. Cette histoire d'entonnoir, juste pour être sûr de bien clarifier pour tout le monde, en fait, c'est de prévoir en amont le chemin que va prendre ton prospect jusqu'à devenir client finalement et jusqu'à utiliser d'ailleurs, ça peut même être aller plus loin que juste devenir client, ça peut être utiliser ton produit, fidéliser, etc., etc. Mais en tout cas, c'est d'essayer de mapper en amont, de prévoir tout le chemin qu'il va prendre pour pouvoir l'emmener gentiment vers ce vers quoi tu veux aller, hein. C'est bien ça ?
Alors c'est hyper intéressant, je rebondis tout de suite sur cette question. Bah, effectivement, ça va dépendre du degré de détail dans lequel on veut rentrer. Et là, c'est aux personnes autour de la table de savoir qu'est-ce qu'ils veulent modéliser exactement. Parce que modéliser la croissance, on peut le faire pour chaque équipe, donc pour chaque pôle, on peut le faire à peu près pour tout. On peut le faire pour un projet. Ouais. Prenons un projet complètement au hasard, on veut lancer une communauté d'alumni. Et on voudrait qu'en fait ces alumni soient aussi nos bêta-testeurs et viennent et réfèrent d'autres personnes, par exemple pour nos autres formations ou rachètent une deuxième formation. On peut faire un modèle de croissance rien que pour cette communauté. Et donc l'équation, très simple, dire bon, au centre il y a nos alumni, donc c'est les gens qui viennent de formation. Après on va se dire bon bah où est-ce qu'on peut les trouver ? Là au-dessus, on va voir, ça va être nos canaux d'acquisition. Bon bah assez simplement, ça va être de nos anciennes formations, les prochaines, très bien. Donc ça va être ça qui va le nourrir. Quels seraient les freins par exemple à ça ? Donc on peut aller assez loin. Et ensuite, directement, se poser la question, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais de la croissance avec cette communauté ? Donc, soit de la croissance du nombre d'utilisateurs, soit de la croissance du revenu. Faut pas se mentir, quand on dit croissance, on parle de croissance de chiffre d'affaires.
Bien
Donc,
sûr.
Comment est-ce que, on va dire par rapport à cette communauté, maintenant que je l'ai, quelle est l'équation qui pourrait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un projet qui existe. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre est-ce qu'on a déjà le projet ou est-ce qu'il est en cours de réflexion. Qu'est-ce qui pourrait, en fait, lui apporter de la valeur? Donc, est-ce que, pour faire très simple, une équation de croissance, par exemple, de Uber, l'équation de croissance de Uber au niveau de son pricing, ça va être le nombre de courses, le nombre de rides que chaque personne va faire. Donc, ils vont dire, OK, il y a une ride, le panier moyen, et qu'ils vont multiplier sur la semaine ou sur le mois. Donc là, on va se dire, OK, quand on voit cette équation, le but, c'est de maximiser peut-être le nombre de rides, mais aussi le nombre d'utilisateurs. Donc à un moment donné, il faudra aussi peut-être le multiplier ou le diviser par le nombre de chauffeurs. Mm-hmm. Le but, c'est de pas trop complexifier. Encore une fois, c'est juste de comprendre les différentes variables qui vont impacter notre croissance.
D'accord. Ouais, c'est ça. C'est de poser sur la table, c'est exactement ça. C'est de poser sur la table les variables pour savoir avec quoi tu peux jouer, finalement, pour moduler ta croissance et atteindre tes objectifs.
Exactement, c'est exactement ça, et surtout, réussir à mettre sur la table plein d'idées et ensuite en enlever, parce que là, en fait, si on faisait en live, je vais te dire plein de choses, puis en fait, on va mettre tout ça, je peux bien dire, mais non, ça, en fait, c'est pas assez pertinent. Uber, si on prend le cas de Uber par exemple, d'aller chercher des personnes, donc ok, il faut qu'il y ait maximisé le nombre de rides. Comment est-ce qu'on peut maximiser le nombre de rides? On peut faire des bons de réduction. Bon, ok, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être que c'est pas du tout une bonne idée. Donc après, c'est à voir, vraiment, c'est à adapter en fonction du besoin, comme tu viens de dire, surtout tes objectifs. Parce que qui dit modèle de croissance ou équation de croissance, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui va régir, par exemple, une entreprise. Si on prend un site e-commerce, l'équation de croissance, ça va être le nombre d'items fois le trafic fois le panier moyen.
Ouais.
Et ça, ça va être vraiment l'équation la plus simple. Après, on peut toujours la complexifier. Mais ça, c'est quand même une équation assez simple. C'est-à-dire que plus on a d'items, on le sait, plus il y a de croissance. Parce que les gens, en moyenne, les prospects ont besoin de la long tail, etc., etc. Donc plus on va ajouter, on avait l'ancien VP marketing de chez Price Minister il y a une semaine sur le podcast, il expliquait qu'effectivement, le plus gros chantier dans la équation de croissance, c'était d'aller chercher un maximum de marques pour avoir plus de produits sur la marketplace.
Oui, bien sûr. Plus tu as de marques qui viennent sur Price Minister, plus tu as d'opportunités de vendre. C'est aussi simple, aussi bête et méchant que ça.
Exactement.
Ok, super intéressant. Tu disais un autre truc que j'ai trouvé très intéressant là, à l'instant. Tu disais, on va se mettre autour de la table pour essayer de trouver notre modèle de croissance. Et bien souvent, quand on se met autour de la table, on se rend compte qu'on n'est pas tous raccord sur ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est un élément assez essentiel à mettre en face dès le départ, non ?
C'est un élément extrêmement essentiel. On peut revenir sur la culture startup. Tu parlais aussi de la culture gros hacking. Ça a l'air assez mystique. Un peu la black box, ça peut être magique. En même temps, ça fait un peu peur. Je pense que la culture startup, avant tout, c'est une culture de la transparence et de la responsabilité de chacun. Donc, chacun prend part à la stratégie, ou au moins donne son avis, explique. Et le but, c'est d'être le plus aligné possible parce qu'il va falloir aller très vite. Donc, on va en parler juste après. Il va falloir tester beaucoup de choses rapidement. D'où cette équation de croissance. C'est d'essayer de peu à peu de dégrossir ce qu'on est en train de faire. Parce qu'a priori, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose d'assez important de se rendre compte, c'est qu'on sait, on est au courant qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si le prochain canal là, qu'on a comme idée de canal d'acquisition, donc canal d'acquisition, c'est un canal marketing, d'aller très concrètement, d'aller chercher par exemple des leads sur Facebook Ads, on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc, il va falloir le prioriser et ensuite tester rapidement pour se rendre compte, est-ce qu'on réussit? Auquel cas, on continue et on va même plus fort dessus. Est-ce qu'on ne réussit pas, ça n'a pas de résultat? Auquel cas, on arrête très vite et on essaie autre chose.
Ouais, je pense que c'est un élément, pour moi, c'est un élément assez fondateur dans la compréhension de ce qu'est une startup. Tu vois, quand je te disais, moi, les startups, ça me fait, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me paraît un petit peu lointain. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, les startups, le principe de l'esprit startup, c'est de se dire, je sais que je ne sais pas, mais je teste, et comme ça, ça me permettra de voir très rapidement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et de créer mon chemin comme ça, c'est-à-dire, c'est de l'itération. Moi, initialement, si tu veux, je me serais toujours dit, attends, un mec qui crée une start-up, une fois qu'on le voit que la start-up a été créée, je me dis, le type, dès le départ, le type ou la nana, d'ailleurs, dès le départ, savait où il allait emmener sa start-up. Alors qu'en fait, très probablement, c'était pas le cas. Très probablement, la personne a essayé un premier truc, ça a marché, ça a pas marché, il y va, essaye un second truc, etc., etc. C'est ça qu'il faut comprendre avec les startups, c'est qu'en fait, c'est des gens qui savent pas trop bien où ils vont, mais ils essayent des trucs pour voir quel est le meilleur chemin.
Alors, on sait exactement où est-ce qu'on va au niveau de la vision, mais on n'a aucune idée de comment on va l'atteindre. C'est un petit peu comme si, alors je fais exprès d'aller dans l'extrême, hein. Bien sûr qu'on a quand même quelques idées, mais ça, c'est un peu comme le fait de monter, de faire de l'escalade ou de faire de l'alpinisme. On a une bonne idée, hein. On sait qu'on veut aller à 4000 ou 5000 mètres, très bien. En revanche, on n'a pas l'idée dès le début de savoir par où est-ce qu'on va passer. Mm-hmm. Donc il faut essayer de toutes ses forces, il y a une question vraiment d'intensité, il y a un sujet de priorisation, il y a un sujet de comment dire, pas d'y aller à fond et surtout de pas avoir peur de l'échec. Donc si je reprends peut-être la métaphore ou l'image de on va monter, on va grimper un sommet, en fait on peut monter à un moment donné et se rendre compte que c'était pas du tout le bon endroit puisque à un moment donné on est bloqué. Donc il faut redescendre où est-ce qu'on était avant et reprendre ailleurs. Et nous on va faire un peu ça, c'est de l'exploration tout le temps, donc on a vraiment un objectif, une vision et on va faire de l'exploration pour aller le plus vite possible parce qu'on veut arriver là-haut.
Très bien.
On veut arriver là-haut avant les autres.
Oui,
startup dit digital, qui dit digital dit on est en concurrence et en compétition directement, non seulement avec toute la France, mais aussi donc Growth Makers par exemple, on est en compétition avec l'Europe, voire le monde.
Et bien sûr. Super, super. Bon, mais c'est très clair. J'aime beaucoup cette image de la montagne, au moins de l'escalade, ça me donne une vision bien, bien claire de ce que c'est que finalement la startup. Ça rend les choses plus concrètes pour moi, c'est super. Tu me disais, étape numéro 1, poser le modèle de croissance, l'équation de croissance. L'étape numéro 2, du coup, une fois qu'on a posé ce modèle de croissance, ce serait quoi ?
Très vite, quand on a notre modèle et cette équation sur qu'est-ce qui va impacter notre croissance, est-ce qu'on pense les points primordiaux ? Bon, on va travailler sur ces points-là. On va se dire, OK, si on pense que vraiment ce qu'il faut faire, c'est augmenter le panier moyen ou augmenter le nombre de marques qu'on a sur notre marketplace, ou pour nous, par exemple, faisons très simple, pour un produit B2B, ça aura plus de services, ou pour nous, d'avoir plus de programmes de formation. Mm-hmm. Bon, on va aller prioriser des idées pour se dire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Est-ce qu'on pousse les programmes de formation ? Parce que ça va forcément impacter notre revenu. Ou est-ce qu'on va pousser ? Parce que encore une fois, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important de se rendre compte que qui dit start-up dit ressources très réduites. On a peu de membres dans l'équipe quand même. Et on a beaucoup de choses à faire. Et ce qui impose, par définition, d'être extrêmement focus, donc d'être focalisé. C'est cette allégorie du laser. Ils appellent ça, les Américains, laser focused. Ça veut dire, un laser, en fait, c'est de la lumière, tout simplement. Sauf que ils ont pris un faisceau de lumière et ils l'ont mis tellement focalisé que ça peut percer un mur. Alors que si un laser, on lui enlève cette espèce de sa focale, c'est juste de la lumière. Si on va de plus loin. C'est la même chose pour nous, notre état d'esprit en startup. Quand je dis nous, plein d'autres, c'est de se dire, on est très peu. On doit avoir un maximum d'impact. Dans cette culture, il faut avoir de l'impact sur notre résultat. Donc, on va tout mesurer. Il faut avoir de l'impact dessus pour voir si ça fonctionne ou pas. Et ben, le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir tout le monde extrêmement aligné. Pour avoir tout le monde extrêmement aligné et être focus, ben, faut discuter équation de croissance. Il va falloir prioriser les idées. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut impacter, c'est hyper important. Une fois qu'on sait, par exemple, c'est soit un taux de conversion qui fonctionne pas ou notre nombre de, d'items dans no, sur notre site e-commerce qui fonctionne pas ou qu'il faut absolument impacter le plus vite possible, bah là, on va prioriser les idées. Donc là, on a un framework aussi pour se dire quelle est l'idée qui aura le plus d'impact par rapport à cette variable. Si encore une fois, ça va être d'avoir plus de marques sur un sur notre marketplace, par exemple, voilà, on va brainstormer et prioriser uniquement ça. On va pas aller commencer à chercher, oui, on pourrait faire du parrainage aussi, on pourrait aller faire une campagne de Facebook Ads. Non, c'est exactement ça le focus, c'est dire non. C'est-à-dire, là, on est tous, on va tous aller sur craquer ce problème du nombre de marques. Donc, tout le monde va essayer de trouver, brainstormer, comment est-ce qu'on peut faire ça le plus vite possible.
Ouais, il y a deux trucs dans ce que tu dis, moi, que je retiens, qui sont, quand tu as peu de ressources, et ben, il va falloir que tu sois ultra efficace. Donc, ça veut dire, en fait... pas trop de bullshit, et quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui ait un impact sur ton objectif final et pas quelque chose qui te fait plaisir, parce que on est tous pareils, hein, dans notre to-do list, il y a toujours des choses qui nous plaisent plus que d'autres, et on est humain, naturellement, on va aller vers ce qui nous plaît bien souvent en premier. Sauf que c'est pas ce qui nous plaît qui est important, ce qui nous plaît, c'est ce qui va avoir de l'impact sur l'objectif, qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc là, cet esprit startup, c'est de se dire, on va aller uniquement sur ce qui a de l'impact. Si ça n'a pas un impact direct sur notre objectif, on le met de côté. Et deuxième élément que tu dis, en tout cas que je retiens, c'est il va falloir qu'on priorise, qu'on fasse des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est vrai en startup, c'est vrai dans tout. Moi, je le dis très souvent sur les réseaux sociaux. Souvent, on me dit, ah là là, il faut que je sois sur les réseaux sociaux, c'est génial, il faut que je sois sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur Clubhouse, je ne sais quoi. Moi, je dis, attention, si tu as 15 personnes, ok, très très bien, fine, va partout. Si tu es tout seul, en revanche, tu vas choisir un réseau social, puis tu vas essayer de le faire bien. Et un seul déjà à faire bien, ça va certainement être déjà suffisamment de boulot. Donc, c'est un peu cet esprit-là de se dire, ne nous éparpillons pas, faisons en sorte d'avoir de l'impact sur tout ce qu'on fait et choisissons bien nos batailles parce qu'on ne va pas pouvoir être partout. C'est à peu près ça ?
C'est même exactement ça. On peut pas tout faire. Il faut surtout pas tout faire. Je me suis rendu compte au cours de quelques centaines d'interviews que j'ai fait et de toute cette expérience en startup à voir d'autres personnes et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils grandissent, ce qu'ils font, que déjà, en moyenne, si on a un canal d'acquisition, donc un canal marketing qui marche très bien, on a une belle boîte. Si on en a deux ou trois, on a une boîte extraordinaire. Ça veut dire un truc assez important, c'est que les leviers de croissance, donc ces canaux marketing ou autres, hein, ça peut être du parrainage, vente privée a grossi énormément sur du parrainage, c'est ouais. L'un de leurs plus gros canaux. Bon, en fait, on se rend compte que si on en craque un à deux, on a déjà une boîte extraordinaire. La majorité, la vaste majorité des entreprises n'en craquent même pas un. En plus d'aller s'éparpiller, ils craquent même pas un. Donc, comme tu dis, moi, je gérerai directement sur le canal qui a le plus d'impact. Et ça, la seule manière de le savoir, bah, c'est de mesurer. Et quand on mesure, on regarde, on voit ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut tester aussi autre chose. Ça se trouve, on va aller sur Twitter et on est à fond dessus. Et si on teste pas, on se rendra pas compte que peut-être qu'Instagram a plus d'impact au final. Et au moment où on se rend compte que Instagram a plus d'impact, la question c'est est-ce qu'on continue Twitter ou est-ce qu'on arrête ?
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire, moi, tu vois, là, à l'instant, quand je disais, on va faire un truc, mais on va le faire super bien. Tu me dis, oui, on va faire un truc, on va le faire super bien. Mais pour savoir si c'est ce truc-là qu'il faut faire, faut déjà tester.
Savoir si c'est le bon truc.
Et voilà, donc il faut quand même tester et aller voir, si on reprend nos réseaux sociaux, on va peut-être aller voir Facebook, Twitter et Insta, parce que sur un temps que j'imagine relativement réduit, mais en tout cas, pour pouvoir voir lequel est peut-être le plus adapté pour notre business à nous, c'est ça ?
Et il faut le faire et le refaire, parce que les tests qu'on va faire 6 mois plus tôt ne seront plus significatifs 6 mois après. Très très simple. Nous on a fait des tests sur Facebook Ads pour demander comment faire de l'acquisition sur nos programmes de formation. On a fait des tests sur Google aussi. Il y a à peu près 2 ans, ça a planté complètement. Donc on a arrêté. On dit ok, c'est pas ça le but aujourd'hui. On a refait il y a 1 an, c'est complètement planté. On vient de refaire à peine aujourd'hui et là ça cartonne.
Ah. Et comment tu identifies ce changement ? C'est quoi ? C'est parce que le digital, ça bouge tellement vite que les choses changent ? C'est quoi ?
C'est que... Alors là, je ne vais pas aller trop dans le technique. C'est que je pense qu'il y a beaucoup... Pour que quelque chose fonctionne, en startup, aux US, ils appellent ça le product market fit. Mm-hmm. C'est le fait d'avoir un bon fit entre son produit et le marché. Donc, faut être dans le bon time to market. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus logique de pouvoir réussir à vendre des formations en ligne comme nous on fait, même si c'est un petit peu particulier parce qu'on a une approche de promotion, c'est-à-dire de cohorte, on met tout le monde en même temps, c'est 6 semaines, c'est de la formation continue. Mais c'est-à-dire que nous, ça, on fait ça déjà depuis 2 ans. Et en 2 ans, on avait un peu de mal parce que c'est difficile à vendre. Mais là, il y a le Covid qui est arrivé, tout le monde commence à le faire. Alors logiquement, c'est aussi, ça va avec le marché. Donc c'est pas seulement nous qui avons changé, c'est juste que le marché change. Comme le marché change, les gens changent, les habitudes de consommation changent tout le temps. On peut pas se permettre de rester sur un test et de dire ok, c'est sûr que ça marche pas. C'est tout le principe, c'est de dire en fait, faut aller tout le temps tout re-questionner, faut douter de tout. Comme tu l'as dit, je sais que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et donc même un test qui n'était pas bon 6 mois avant, réessayons parce qu'en fait, ça pourrait être bon maintenant. Peut-être qu'on n'avait pas la bonne marque, peut-être qu'on n'avait pas les bonnes créas, peut-être que on n'était pas assez positionné, pas assez, peut-être qu'on n'était pas assez connu. Moi, je sais aussi qu'il y a un an, on était beaucoup moins connu. Aujourd'hui, c'est, au niveau du podcast, aujourd'hui, on dépasse sur les différentes émissions 2,5 millions d'écoutes. Mm-hmm. Il y a un an, on devait être à peine à 1 million. Forcément, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de, on est deux fois plus connu. Donc, j'imagine que ça joue aussi. Je pourrais pas expliquer parfaitement tout, mais je pense que c'est un combo de plusieurs choses qui se passent bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument tester. Et jamais s'arrêter.
Ouais, en fait, c'est plus simple de tester que finalement d'imaginer pourquoi ça marchera ou pourquoi ça marchera pas. Testons et puis on verra bien tout de suite, très rapidement, si ça marche ou pas. Mmh. Ok, super. Donc ça, c'était ton troisième point, de tester rapidement pour pouvoir savoir. Ton quatrième point, ce serait quoi ?
Mon quatrième point, donc là, on reprend la méthode, c'est en 5 étapes. Donc, si on reprend rapidement, ça va être, on essaie de mapper, de poser notre équation de croissance. Deuxième, on va brainstormer un maximum d'idées et puis on va les prioriser avec un framework. Je pourrais t'en parler plus tard, une fois si tu veux. Ouais. Ça s'appelle ICE. Ensuite, on va tester, parce qu'on se rend compte que, en fait, la vitesse bat la qualité. Donc, dans n'importe quelle exécution, faire une belle campagne marketing au début d'une entreprise, donc pour une startup notamment, vaut mieux aller beaucoup plus vite et que ce soit un peu moche plutôt que d'aller moins vite et que ce soit beau. Et enfin, 4e étape, on va apprendre. C'est le but de tout ça. Pourquoi on mesure, pourquoi on va chercher ce qui a de l'impact, c'est parce qu'on veut apprendre le plus vite possible sur qu'est-ce que veulent vraiment nos utilisateurs. Quels sont les insights, quelles sont les informations qu'on va mieux comprendre et qui vont pouvoir impacter tout le reste de l'entreprise. Parce que ce qu'on apprend au marketing, ce qu'on apprend au commercial, avec les commerciaux qui vont apprendre des choses en face à face avec les clients et les prospects, ça va se réimpacter sur le produit aussi. Si on me dit, j'avais pas compris, moi je pensais que vous faisiez ça. En fait, moi je pensais que vous aviez qu'une seule formation. Oh là là, on n'a pas réussi à bien gérer. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre qu'on n'a pas une seule formation, on en a 4. Et d'ailleurs, on aura 8 à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on peut... Peut-être qu'on est mal positionné. Peut-être que le message qu'on passe n'est pas le bon. Peut-être que le script de vente des commerciaux n'est pas le bon. Et donc, le but, c'est de toujours apprendre, être le plus proche du marché possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va adapter la suite de la stratégie. C'est-à-dire qu'on parle de prioriser des idées et d'avoir des objectifs. Mais peut-être que, donc à la 4e étape, quand on a les résultats, on se rend compte qu'on se trompe complètement. On a essayé de rajouter, par exemple, 4 formations parce qu'on pense que c'est le catalogue de formations qui va aller vraiment nous aider à faire de la croissance. On en lance 4 et là, on se rend compte que ça change rien. Oula, faut vite aller changer le bateau. Comme on est à la montagne, on est dans la montagne, on est monté trop haut, faut qu'on descende vite pour reprendre une autre route.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est de se dire, tester, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir faire, en fait, c'est être super agile et réagir tout de suite. Comme tu disais, ce qu'on veut, c'est aller tout là-haut, on sait où est le sommet. Quand on est en bas, on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre. Il faut être capable de se dire, je teste un chemin, mais si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave, j'ai le droit de revenir en arrière. En fait, c'est un peu l'anticulture de ce qu'on apprend en France, à l'école. Exactement. Mais on nous apprend à faire bien, à bien faire son travail, à toujours avoir un A+, si possible. Alors qu'en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est non, vaut mieux tester des trucs et avoir un B- et savoir finalement si c'était le bon choix, quitte à retourner en arrière, se planter complètement.
Exactement, avoir parce que ton but, c'est pas d'avoir un A+. Ah oui, parce qu'à aucun moment, ton but, c'est d'avoir un A+. À tout moment, ton but, c'est d'emmener toi et ton équipe, c'est-à-dire de ne pas mourir dans une avalanche, et puis de l'emmener tout en haut. Et donc, moi, mon job, par exemple, c'est de donner les outils, les process, l'état d'esprit, les manières de faire pour qu'ils puissent aller eux aussi chercher d'autres chemins, chaque personne de l'équipe. Et ça implique donc beaucoup de discipline, ça implique, quand je parle de process, de beaucoup de structuration, par exemple, de semaine, beaucoup de priorisation, de comment est-ce qu'on aide à mieux faire ses to-do, être plus productif, être plus efficace. Parce qu'une fois dans la montagne, faut être prêt à survivre. Donc moi, je le vois vraiment comme ça, l'état d'esprit startup, c'est donner un espèce de toolkit, une caisse à outils qui va te permettre de survivre dans la jungle ou dans la montagne.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'esprit, dans l'analyse, et tu vois, dans le spirit startup, c'est de se dire, je vais apprendre en permanence. C'est de jamais... Parce qu'on a l'impression, tu vois, d'extérieur, on a l'impression que c'est des gens qui sont tellement sûrs d'eux, qui vont aller lever des millions, tu vois. Enfin, il y a cette impression comme ça de « je sais exactement où je vais ». Alors qu'en fait, ça, c'est du paraître. Et finalement, c'est des gens qui sont très, très, très capables de se remettre en question tout le temps, de se casser la figure, de pas bien faire, mais... S'ils se cassent la figure, c'est pas, en fait, ce que je comprends, hein, on le voit pas comme un échec, on le voit comme une opportunité d'apprendre. Ça me fait penser, tu vois, je sais pas si tu connais, enfin, si tu la connais sûrement, Pauline Legnaud, qui a fondé Gemio. Elle m'avait expliqué, elle était venue sur le podcast du marketing, et elle nous avait expliqué qu'en fait, tu sais, sa fameuse campagne d'affichage avec son petit chat rose, que moi je trouvais complètement dingue et qui a vraiment lancé Gemio et qui, même, je crois que ça fait 10 ans ou 10-15 ans maintenant, Gemio, on lui parle encore du petit chat rose alors que le petit chat rose n'existe plus depuis des années. Et elle m'expliquait qu'en fait, très peu de gens le savent, mais le petit chat rose, on a tous l'impression qu'elle a lancé Gemio avec cette campagne, alors que c'était la troisième campagne, qu'elle avait fait deux campagnes dans le métro avant, qui étaient passées mais totalement inaperçues, c'était des flops vraiment totales, et ben, elle les avait lancées rapidement parce qu'elle voulait comprendre ce qui allait fonctionner, pas fonctionner. Et à chaque lancement, elle comprenait où ça avait péché. Premier lancement, si je dis pas de bêtises, c'était sa gestion des médias, tu vois, de la négociation média qui avait péché. Alors elle comprend que c'est la négo-média. Elle va apprendre, elle apprend la négo-média, elle revient avec son bâton de pèlerin, elle refait une négo, elle fait une super négo-média, mais elle se plante royalement sur la créa, elle comprend que c'est la créa qui pêche maintenant, elle va voir la plus grosse agence, une des plus grosses agences de Paris, elle fait sa négo-média très très bien, et elle a une super créa, et là on a le petit chat rose. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le combo de se dire « j'ai pas peur de me planter », parce qu'en fait me planter ça va me permettre d'apprendre, mais surtout effectivement quand je me plante, j'en fais quelque chose, j'en fais pas... Le truc négatif du bouh, c'est trop triste, je viens de me planter, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, etc. Non, au contraire, c'est me planter me permet d'apprendre exactement où est-ce qu'il ne faut pas aller et donc potentiellement où est-ce qu'il faut aller.
Et c'est génial de savoir je ne sais plus qui dit ça, j'ai, dans ma vie, je n'ai connu aucun échec, soit je gagne, soit j'apprends.
Exactement.
Je ne sais plus qui dit ça, quand même. Je vais regarder, mais
il
est vachement connu, oui. Mais je ne sais plus c'est qui. Et c'est exactement ça, l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est génial, en fait. Je sais que je ne dois pas aller là. Enfin, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de se dire, quand même. C'est le seul moment, en fait, où je sais que ce n'est pas ça que je dois faire. C'est quand même fou.
C'est pas mal.
Enfin, moi, je comprends l'état d'esprit inverse. Ça met du temps à changer d'état d'esprit, comme tu dis, de ne pas aller chercher le A+. Mais en même temps, ça met tellement moins de pression de ne pas aller chercher le A+. Le but, c'est pas de chercher le A+, c'est de se dire, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Parce qu'une fois qu'on sait que c'est par là, bah, regardez, je viens de trouver un chemin, venez tous voir. L'énergie que ça procure dans l'équipe de réussir des choses comme ça, c'est comme on peut en parler après, ce qu'on a fait au niveau des webinars. On a mis en place des webinars, c'est vraiment le truc tout bête. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est planté plein de fois. On est les seuls à pouvoir ramener 1100 personnes sur les webinars en moins d'une semaine et avoir 650 personnes en live qui viennent regarder ce qu'on fait.
Et c'est génial, France, c'est une super sensation, je suis d'accord.
Et avant ça, on peut croire que c'est logique, c'est facile. En fait, il y a un monde, ça fait un an qu'on essaie de faire des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais, donc on sait que ce n'est pas ça. Et chaque fois, on fait. Et en fait, quand on a un tout petit win, un tout petit réussite, on est trop content. Ah ouais, là, en fait, ils ont déjà mieux compris. Ah là, on a réussi à avoir 200 personnes. Puis d'un seul coup... on change plein de choses, qu'on change tout le temps, et bam, on craque. C'est un peu comme un problème de mathématiques. Chaque projet est un problème de mathématiques, et on se casse la tête dessus, et on trouve à chaque fois, on va un peu plus loin, et à un moment donné, quand il est craqué, c'est un sentiment de satisfaction extrême. Encore une fois, quand on arrive en haut de la montagne, on va pas se mentir, c'était l'objectif, mais le vrai, vrai kiff, c'est toute l'ascension. Si c'était facile, on le ferait pas.
Je suis d'accord. C'est un peu le challenge de se dire, je suis en bas de la montagne, je regarde le sommet. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Et cette adrénaline de se dire, on y va, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a une raison pour laquelle aucune personne ne va au sommet d'une montagne en hélicoptère. C'est que il n'y a pas d'intérêt, en fait.
Je suis d'accord.
Si tu veux monter en haut, c'est parce que tu veux avoir la souffrance, tu veux avoir le voyage.
Ouais.
Si tu vas directement en hélico ou tu te fais parachuter, ok, super, qu'est-ce que tu as appris, est-ce que tu t'es dépassé, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Rien.
Je suis d'accord, c'est le chemin qui est important. Alors, on parle de cette idée du sommet, du chemin, etc. Il y a quand même une étape après tout ça. Hein. Et cette étape, c'est un peu ce qui, pour moi, est la vraie... Enfin, dans mon esprit, c'est l'étape start-up. C'est ta cinquième étape, je crois. C'est ce qu'on appelle en français le passage à l'échelle, le scaling, c'est-à-dire... le fait de grossir, c'est ça, hein? Explique-nous un peu ce que c'est.
C'est la suite, c'est vraiment la suite logique, c'est on se plante, et puis un jour, un truc, on commence un petit peu à craquer, donc on continue. Et une fois qu'on voit qu'il y a un déclic, par exemple, on va reprendre les webinars, par exemple, on se rend compte qu'il y a un déclic, et on comprend pourquoi. On sait que la vérité, c'est qu'on n'a pas fait 10 webinars et qu'il y en a un qui avait marché. C'est qu'on a mis les unes à la suite des autres des étapes qui font sens. C'est comme un immense jeu de Lego. On les met dans tous les sens, ça marche pas. Et puis, à un moment donné, ça fait quelque chose. Donc, on le sait maintenant comment le lancer, comment l'écrire. Il y a un funnel. Donc, pareil, là, il y a un entonnoir de conversion entre comment est-ce qu'on lance un webinar qui marche, comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce que dedans on fait pour que ça convertisse en candidat, par exemple, prochaine formation, comment est-ce qu'on continue à maintenant leur apporter de la valeur pour qu'ils viennent dans notre base de données, etc., etc. Quand on commence ça et tant que ça fonctionne pas, on continue avec les équipes. À partir du moment où on sent qu'on craque quelque chose, du Facebook Ads, pareil, par exemple, pour aller sur des webinars. On veut recruter sur notre webinar grâce au Facebook Ads, ce que l'on fait exactement. Une fois qu'on a le combo, bah là, dans ce cas-là, faut y aller. Ce qu'on appelle aux États-Unis, on double down. On a compris qu'il y a un truc qui fonctionne, faut investir à fond. Parce que vu que notre stratégie, c'est d'aller chercher un peu à droite à gauche, bah, une fois qu'on a un truc qui fonctionne, par exemple, simple, dans la montagne, on arrive à un endroit et on se rend compte que c'est par là qu'il faut passer. Ok, bon, bah, les gars, maintenant, on va ramener du monde en plus. Sauf que là, on va prendre des experts et ils vont nous déblayer, ils vont mettre des ponts, des machins, des trucs, parce qu'on sait que c'est par là qu'il faut passer.
Donc, si tu trouves un passage, tu y vas à fond, quoi.
Voilà, donc quand on sait que le webinaire, c'est ce qu'il faut faire, bon, bah, peut-être que la suite, c'est, par exemple, si on l'a fait avec un freelance ou si on l'a fait avec quelqu'un d'autre, c'est de le mettre à l'échelle, c'est-à-dire, bon, on internalise, on prend des gens experts et en fait, maintenant, on en fait une autoroute. Donc, d'un petit chemin, on en fait une autoroute parce qu'on sait que ça va ramener plus de leads.
Et c'est ça qui fait que bah, tu as une croissance, en fait, in fine, c'est ça qui fait que tu as une croissance super rapide. Je vais essayer de résumer assez rapidement un petit peu ce modèle, mais je trouve que c'est super intéressant. Et en fait, surtout ce que je comprends, c'était un peu notre intro, mais en le voyant et en parlant de cette métaphore de la montagne, je comprends ce que tu me disais en off, où tu me disais, mais c'est l'esprit startup, c'est la stratégie startup, mais en réalité, c'est totalement applicable à n'importe quelle entreprise, à un indépendant, à une PME, enfin peu importe, c'est vraiment un esprit plutôt, c'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Donc c'est d'abord de se dire, on va poser le modèle, on va regarder quel est le champ des possibles. Ensuite, on va prioriser, choisir des éléments et se dire, bon, c'est là-dessus qu'on veut aller bosser. On va tester des choses parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc on va tester différentes choses et à chaque fois qu'on teste, surtout ce qui est super important, c'est à chaque fois qu'on teste, on teste pas pour rien, on teste pour identifier quel est le meilleur chemin et on va sur le meilleur chemin identifié. On apprend de nos erreurs, on apprend ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on va travailler dessus pour l'améliorer et une fois qu'on a trouvé le chemin qui fonctionne, on y va à fond, double down comme tu dis en anglais, on y va à fond et c'est ce qui va nous permettre de grossir très très vite.
On passe à l'échelle. Exactement, c'est tout le sujet, c'est pour ça que nous aussi dans les formations, on a évidemment pas que des startups, on a de plus en plus de PME, plus en plus parce que c'est ce qu'on apprend, on leur dit oui, il y a toute une culture digitale à comprendre, des canaux d'acquisition, mais il y a surtout avant tout le fait de changer d'état d'esprit, de posture sur l'échec ou la réussite. Le but c'est d'aller vite, comme on dit, la vitesse bat la qualité, c'est fort quand même, c'est dire ok, là on a juste pas le temps. Si t'as passé nous en interne par exemple, si les équipes passent plus d'une heure et demie ou deux heures sur un projet avant de l'envoyer à un autre, je considère qu'il y a un problème.
Ah
pour,
ouais.
Peu importe quoi. Pour une stratégie de Facebook Ads, pour des créations, peu importe. Si au bout d'une heure, il n'y a pas un truc qui est sorti, c'est qu'on a un problème.
Mais alors, question, tu vois, je n'avais pas prévu de te la poser cette question, mais du coup, ça m'interpelle. Est-ce que ce n'est pas un peu épuisant comme rythme? Parce que tu vois, je me dis, je fais une heure et demie, deux heures, je suis un peu timée, il faut que je sois à fond. Je vais y arriver pendant un certain temps, mais il y a un moment donné, je vais m'épuiser, non? Comment vous gérez ça?
Est-ce que c'est épuisant de monter une montagne? Ça l'est complètement, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, faut faire très attention avec les objectifs, toujours à bien équilibrer entre ce que j'appelle la performance et le kiff, c'est que les équipes soient pas non plus sur les genoux, que personne soit sur les genoux, que tout le monde prenne du plaisir, et c'est là en fait c'est plus au recrutement que ça se voit, ça ne va pas du tout à tout le monde. Et c'est pour ça que l'intensité après c'est un curseur, nous on le met à un certain endroit, d'autres startups vont le mettre beaucoup plus loin, pour vérifier par exemple les projets et la délivrance, comment dire ça, le fait que ça a été délivré à la journée, la délivrabilité à la journée voire à la demi-journée, voilà sur quoi tu t'engages, où est-ce que t'en es, pourquoi on en est là, comment est-ce qu'on peut aller plus vite, mais je pense que c'est juste un curseur qu'il faut mettre à certains endroits, mais rien que déjà le début de cette culture de se dire on change complètement, on shift complètement d'état d'esprit, c'est déjà l'étape numéro une. Après, si on va aller très très fort dans l'intensité et on sait que ça va fatiguer tout le monde ou un peu moins fort, ça c'est à chacun par rapport à ses cultures d'entreprise, par rapport aux équipes en interne, par rapport à des moments d'année aussi. Je sais qu'il y a des moments où il faut y aller à fond. Les e-commerçants, je ne conseille pas d'aller en vacances en novembre ou décembre.
Ah, c'est clair. Effectivement. Ce que je comprends, c'est que bien sûr qu'il y a des moments d'accélération, mais tu peux pas accélérer en permanence. Donc, bien sûr qu'il faut se ménager aussi des moments où on va ralentir un peu, ou en tout cas faire tourner les équipes. Enfin, en tout cas, trouver des moyens pour pas griller tout le monde, parce que l'idée, c'est de monter la montagne et de la monter avec tout le monde.
Exactement, exactement. C'est ça le sujet. Hein. C'est comment est-ce qu'on arrive aussi que tout le monde reste, parce que si on perd des membres entre temps, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas fait pour ils pensaient qu'ils voulaient monter, mais en fait ils veulent pas. Mais si ça arrive trop souvent, c'est que on a un problème de coaching d'équipe, on a un problème de management.
Super. Bon, bah c'est un autre sujet. Il y a de quoi faire sur le sujet. Merci beaucoup Gabriel. C'était un épisode super intéressant, je trouve, ultra concret. Merci beaucoup de nous avoir donné cette strat startup et surtout de nous avoir montré que les startups, faut peut-être pas en avoir peur et qu'il y a plein de choses à en apprendre et qu'on peut le faire aussi à la manière startup dans des plus petites entreprises, pourquoi pas, à chacun de moduler comme il le veut. Merci à toi Gabriel, et puis écoute, je te dis à très bientôt, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast.
Merci.
Du marketing.
Très cool.
À très bientôt. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cet épisode, c'est la métaphore de l'escalade qu'a donné Gabriel. En fait, une fois qu'on voit cette montagne, on est en bas, on veut monter au sommet, pas le choix. Il faut faire des choix, il faut essayer d'un côté, ça marche tant mieux, ça marche pas, on rebrousse chemin et on repart. C'est extrêmement clair et d'un coup, ça rend l'esprit startup beaucoup plus accessible aussi, je trouve. Bon, et puis, j'aime beaucoup cet état d'esprit de se dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être parfait, mais d'expérimenter des choses pour savoir où on veut aller. Je trouve d'ailleurs que ça s'applique bien sûr à nos entreprises, mais c'est presque une véritable philosophie de vie du genre, tente des choses si tu veux savoir ce qui est fait pour toi. Alors merci encore Gabriel pour ce moment passé avec toi. Tu m'as réconcilié avec les startups, ce qui, je l'avoue, me faisait un peu peur parfois jusqu'ici. Je suis pas sûre de vouloir mettre en place ce type de rythme dans mon entreprise, mais la philosophie, je prends. Et justement, la semaine prochaine, on parlera de comment faire pour aligner notre business à nos valeurs. Si vous êtes encore avec moi, c'est probablement que vous avez aimé cet épisode. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast du marketing, soit sur votre application préférée, soit en demandant à recevoir ma newsletter. Je vous envoie un email par semaine pour vous prévenir de la sortie du nouvel épisode. Et puis, j'en profite pour partager avec vous les outils qui me sont utiles dans mon activité et je vous donne directement accès à tous mes cadeaux bonus. Pour vous inscrire, il faut aller sur le podcast dumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.